Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya, demandé par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir ? Un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, chers enfants, avec les prophètes, Isaïe en particulier, que nous avons entendu en première lecture, avec Joseph, avec Marie, Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, fait partie de ces personnages bibliques devenus emblématiques du temps de l'Avent. En effet, si Jean-Baptiste nous est souvent présenté durant les lectures qui parcourent le temps de l'Avent, c'est parce qu'il a eu, dans l'histoire de la révélation que Dieu a faite aux hommes, eh bien Jean-Baptiste a eu une mission absolument unique. Préparer les gens à recevoir la visite du Messie, c'est-à-dire d'un sauveur que Dieu avait promis d'envoyer à son peuple. Ce sauveur, du reste, voilà bien longtemps justement que le peuple l'attendait. La première lecture que nous avons entendue, par exemple, je vous le disais, est une prophétie d'Isaïe. C'est-à-dire que c'est une prophétie, quelque chose qui a été annoncé mais qui se déroulerait que longtemps après. Et donc une prophétie écrite près de 500 ans avant la naissance même de Jésus. 500 ans, vous vous rendez compte? Et elle annonçait alors, cette prophétie, toutes les merveilles que le Messie accomplirait lorsqu'il viendrait parmi les siens. Les aveugles verraient, les boiteux marcheraient à nouveau, les sourds entendraient à nouveau, bref, ce serait alors une époque lorsque le Messie viendrait où il n'y aurait plus besoin de médecins, forcément. Alors l'avènement de ce Messie, appelé à devenir un grand roi, serait marqué de toute évidence par une série de signes extraordinaires comme on n'en avait encore jamais vu. Mais d'autres textes, par ailleurs, prévenaient les pécheurs et les hypocrites que les pendules seraient sévèrement remises à l'heure quand le Messie viendrait. Du reste, Isaïe nous le disait un petit peu, il disait « Lorsque le Messie viendrait, ce serait l'heure de la revanche de Dieu, de la vengeance de Dieu. » Et la prédication de Jean-Baptiste, à l'époque de Jésus, était plutôt focalisée sur cet aspect. que ceux qui étaient là dimanche dernier, par exemple, se souviennent de l'Évangile, lorsque, s'adressant aux pharisiens, Jean-Baptiste leur disait « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Sous-entendu, si vous ne devenez pas meilleur, ben ça va chauffer pour vous. Alors, focaliser sur la revanche que Dieu prendrait sur tous les méchants de la terre, Jean-Baptiste avait sans doute quelque peu oublié que le Messie viendrait d'abord manifester l'amour et le pardon de Dieu, la miséricorde. Quand Dieu pardonne, on dit qu'il est miséricordieux. Alors inévitablement, lorsque Jésus paraît, doux et humble de cœur, toujours prêt à offrir aux pécheurs le pardon céleste, ben Jean-Baptiste, il est un peu désemparé. « Es-tu celui qui doit venir ?» fait-il demander à Jésus par deux de ses disciples qui l'envoient. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce propos, beaucoup de commentateurs bibliques se croient obligés de constater que Jean-Baptiste aurait à ce moment-là douté lui-même de l'identité de Jésus comme Messie. Alors personnellement, je ne le crois pas, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que Jean-Baptiste, alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman, qui s'appelait Élisabeth, avait lui-même reconnu Jésus lorsqu'il était lui aussi dans le ventre de sa maman Marie. Et il avait reçu à ce moment-là l'Esprit Saint. Il avait bénéficié d'une Pentecôte avant l'heure. C'est ce qui lui avait fait tressaillir de joie dans le ventre de sa maman Élisabeth. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, lorsqu'il sera beaucoup plus grand, sur le bord du Jourdain, c'est-à-dire de ce fleuve, de ce grand fleuve qui parcourt Israël, Jean-Baptiste sera justement celui qui va montrer Jésus en disant à tous les autres, « Voyez-vous, c'est lui que vous devez suivre maintenant. C'est lui que vous devez suivre parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Et l'agneau de Dieu, c'était une expression dans l'Ancien Testament pour désigner celui qui ôterait le péché du peuple, autrement dit l'envoyé de Dieu. Alors voilà pourquoi je ne pense pas que si Jean-Baptiste, depuis sa prison, a envoyé deux de ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Je ne pense pas que c'était parce qu'il ne savait plus, comme s'il était devenu amnésique, il ne savait plus si Jésus était vraiment le Messie. Alors j'y vois plutôt de sa part eh bien une sorte de reproche, une sorte de provocation adressée à Jésus, mue par l'impatience de voir Jésus au contraire manifester sa justice, la justice de Dieu. Parce que du fin fond de sa prison, Jean-Baptiste, il est privé de sa liberté. Il a été privé de sa liberté parce qu'il a voulu être fidèle à la parole de Dieu. Il risque sa vie parce que il a été témoin de la fidélité du mariage, enfin de tout ça. Et à ce moment-là, il ne comprend pas pourquoi Jésus, il ne vient pas en quelque sorte le délivrer. Et puis punir tout le monde. Au contraire, il voit Jésus prendre son temps, annoncer la bonne nouvelle, pardonner aux pécheurs, guérir les malades. Alors c'est une manière de lui dire, mais qu'est-ce que t'attends là? C'est pour ça que t'es venu, alors dépêche-toi. Et vous voyez que là, c'est bien différent du doute. Jean-Baptiste a toujours reconnu en Jésus le Messie, mais il voudrait que ce dernier, dans le vaste rôle qu'il est en train de jouer, passe tout de suite au dernier acte, celui du jugement dernier. C'est un peu la tentation, on connaît peut-être tout ça les enfants, et même les adultes, c'est la tentation du tout, tout de suite. Tentation que nous pourrions mettre en parallèle avec la deuxième lecture de ce dimanche, où Saint Jacques nous disait « Ayez de la patience, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ». Alors voici donc quelques pistes de réflexion que je retiens à la suite de ces lectures, pour petits et grands. Tout d'abord, quel sauveur, quel Dieu attendons-nous nous-mêmes? Force est de constater que, comme Jean-Baptiste, nous avons aussi notre petite idée sur le Messie, une petite idée qui ne correspond pas toujours à la réalité. Peut-être serait-il bon alors, à quelques jours de Noël, de nous demander quel Dieu nous attendons vraiment, si du moins nous l'attendons encore. « J'ai tellement prié sans être exaucé », me disait un jour une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années, « j'ai tellement prié sans être exaucé que désormais je n'attends plus rien de Dieu ». Alors oui, chers frères et sœurs, quel Dieu attendons-nous vraiment? Est-ce que nous attendons un Dieu policier qui devrait remettre un peu d'ordre dans le monde? Et on entend ça, ben, si Dieu existait, hein, qu'est-ce qu'il attend pour faire ceci, pour faire cela? Un Dieu assistante sociale qui subviendrait à tous mes besoins matériels, ben, si Dieu existait, me ferait gagner au loto. Un Dieu d'épanage en tout genre qui ferait un peu le travail à ma place, qui m'aiderait à prier, à me réveiller le matin et pourquoi pas à être un saint sans trop bousculer mes habitudes. Alors oui, il faut oser se l'avouer, Dieu nous déçoit parfois parce qu'en fait, souvent, nous l'avons imaginé tout autre qu'il n'est en réalité. Et bien souvent, nous voulons un Dieu qui accomplisse nos volontés. Notre Père, que ma volonté soit faite et non pas que ta volonté soit faite. Et puis, deuxième piste de réflexion, comment est-ce que je me situe moi-même vis-à-vis de cette tentation du tout, tout de suite? L'avant, vous le savez, est un temps d'attente et par conséquent un temps où la patience doit être exercée et privilégiée. Alors, bien souvent, ben, vivement Noël, hein, qu'on ouvre nos cadeaux. Alors un temps d'attente et de patience, pas seulement dans le domaine de la vie spirituelle, mais également dans toutes les autres sphères de mes activités. Or, quel est mon coefficient de patience? Ne m'arrive-t-il pas souvent, au contraire, de vouloir tout, tout de suite, de ne pas laisser suffisamment de temps au temps, et par conséquent, d'être crispé ou frustré dans mes relations avec les autres? Bien souvent, lorsqu'on est crispé, lorsque dès que quelqu'un nous adresse la parole et puis qu'on sent que ça nous agace, c'est parce qu'on manque soi-même de patience. Et c'est ici que la lettre de Saint Jacques, entendue en deuxième lecture, prend toute sa signification. J'y faisais allusion tout à l'heure. La patience va de pair avec la confiance. Jésus est venu semer l'évangile dans le vaste champ de notre monde. Alors certes, comme nous pouvons le constater, le bon grain et la mauvaise herbe poussent ensemble. Et il est même souvent très difficile de pouvoir les séparer. Mais cela ne doit pas pour autant nous cacher les promesses d'une bonne récolte. Partout où la bonne nouvelle est annoncée, c'est-à-dire partout où ce que Jésus nous a dit de faire est effectivement fait, le mal recule quelque part. Un sourire, une main tendue, un pardon, une prière. Chaque fois que tout cela est fait, le mal recule. Chaque fois que des gestes de bonté et de pardon sont faits à l'encontre des souffrants ou des nécessiteux, Dieu est à l'œuvre. Le véritable signe que Dieu est là, que son règne est bel et bien commencé, c'est quand il y a de l'amour en nous et autour de nous. Alors, nous savons tous ce qu'il nous reste à faire au cours de cette semaine. Amen.